With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se rend compte qu'il n'a pas pris le temps depuis de trop longs mois de parler de cinéma d'animation, et c'est bien dommage car nous y puisons tous régulièrement de quoi assouvir notre besoin incessant de féerie, de merveilleux, de plongée riche en sensations dans des imaginaires des plus débridés. C'est le cas notamment grâce à l'incontournable animation japonaise dont l'un des plus formidables représentants, Mamoru Hosoda, nous revient en cette toute fin d'année avec le film Mirai, ma petite sœur, dont on va causer là tout de suite avec un quatuor, presque une fratrie de cinéphiles, des frères de cœur au moins. Arnaud Bordas, salut Arnaud.
Salut Thomas.
David Honora, salut David.
Salut Thomas.
Julien Dupuis, salut Julien.
Bonjour Thomas.
Rafik Djoumi, salut Rafik.
Salut Thomas.
C'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Mirai, ma petite sœur, donc, nous raconte les aventures de Kun, petit garçon, tout ce qu'il y a de plus normal et heureux, dont l'existence est quelque peu chamboulée par un événement certes classique, mais toujours perturbant, la naissance de sa petite sœur, Mirai, donc, petite sœur dont il tolère assez mal la présence et l'attention qu'elle reçoit de la part de ses parents, ce qui va le pousser à se réfugier au fond du jardin, où se trouve, le hasard faisant bien les choses, un arbre magique qui va le faire voyager dans le temps. On l'a dit, c'est signé Mamoru Hosoda, réalisateur entre autres de Ameyuki, Les Enfants Loups, de Summer Wars, dont nous pensons le plus grand bien. On avait eu l'occasion notamment de le dire lors de la sortie du Garçon et la Bête, auquel nous avions consacré une émission, c'était il y a fort longtemps. Votre avis sur Mirai, ma petite sœur, les amis. Julien Dupuis, comme par hasard.
Évidemment,
Julien Dupuis, tout autour de la table. C'est lui qui prend la parole en premier.
Formidable,
Julien Dupuis. On aime beaucoup Julien Dupuis.
Donc, oui. Non, c'est génial, quoi.
Okay. Enfin, merci, mais... Julien.
Non, ce qui est toujours hallucinant, en fait, chez Mamoru Hosoda, c'est sa sensibilité, déjà, parce qu'en fait, le principe de cette œuvre, en fait, qu'il est en train de déployer, enfin, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'aborde, c'est que il parle de choses extrêmement intimes à travers des visions totalement épiques et l'imaginaire complètement déluré, comme ça. Et je trouve qu'il atteint une espèce d'universalité folle, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que c'est grâce à cette puissance évocatrice que moi, il m'a fait partager. Alors, moi, j'étais... Non, j'étais pas encore papa, en fait, à l'époque, mais je me rappelle que dans Ameyuki, Les Enfants Loups, j'avais l'impression d'être une maman aux prises avec ses enfants et ces petits êtres qui te sont à la fois totalement étrangers, attachants, qui t'échappent, mais qui tout à coup sont extrêmement familiers, etc. Et là, il m'a replongé, en fait, dans mes troubles, en fait, de petit garçon, pour autant que je puisse m'en souvenir. Hein, c'est-à-dire, et tout ça, encore une fois, en déployant un univers et une mythologie qui sont en même temps extrêmement cohérents visuellement et en m'emmenant en fait dans des choses qui sont totalement inattendues et à la fois extrêmement familières. Voilà.
Okay. Non, mais c'est pas mal.
Après, il faut que j'étaye en fait en fonction de ce que les autres diront. Et il y a un autre truc aussi d'ailleurs là-dedans.
Et il l'étaye déjà.
Ah, oui, pardon. Non, mais du coup, je vais rajouter quand même un autre truc, c'est que le film t'emmène en fait là dans disons, commence de façon plutôt soft avec des choses qui te sont assez faciles en fait, dans une certaine proximité, et en fait il va t'emmener dans des choses qui sont proprement cauchemardesques aussi, ce qui n'est pas forcément évident en fait dans ce que je vois de l'affiche, peut-être même de la bande-annonce, etc. Il y a des sections à la fin qui sont extrêmement puissantes, quoi, et angoissantes, et qui, mais je pense, sont extrêmement angoissantes parce qu'elles font elle parle en fait à mon inconscient, à moi, et qu'elles doivent raviver en fait des frayeurs que j'avais et que je pense tout le monde avait.
David,
tout le monde a.
Toi, tu as eu l'occasion déjà d'en parler dans les émissions qu'on a fait à Cannes. Mais...
Ouais, on en avait parlé donc à l'époque avec Arnaud. Alors moi, j'ai un... Là, je ne sais pas quel est le masculin de Nullipare, mais en tout cas, je suis le seul au micro à ne pas avoir d'enfant.
Nullipare aussi.
Non, je crois que c'est... Enfin, je ne sais pas. Si ça marche aussi.
Je ne sais pas.
Bon, c'est une petite discussion étymologie.
Tout à fait, c'est sympa.
Donc non, mais en tout cas, je suis le seul au micro à ne pas avoir d'enfant. Et malgré tout...
Enfin, d'enfant connu.
Ou reconnu. Que je sache.
Non, moi, je ne connaissais pas ce terme, nullipare, je l'apprends.
Tout à fait.
Et voilà, je
crois que c'est ovipare, mais tu vois,
ça pas veut dire ne pas avoir porté d'enfant.
Non, il n'a pas pondu d'œuf.
Voilà.
Pas d'œuf connu ou reconnu.
Pardon. Et peut-être que dans les commentaires de nos ciné, on va
apprendre l'enfant caché de David Connor.
L'enfant caché de David Connor.
Tu te souviens pas à Besançon en 2002.
Il a tes cheveux et tout, c'est chaud. Et voilà.
Donc tout ça pour dire que j'ai pas d'enfant, mais que j'ai quand même été embarqué par le film, parce que pour le coup, moi j'ai des petites sœurs, et donc j'ai vécu quand j'étais enfant à 4 ans, donc à peu près l'âge du personnage principal du film, l'expérience de voir débarquer un nouveau petit être dans la maison qu'on n'a pas forcément énormément
très envie,
désiré à l'époque.
Voir, ouais.
Et moi, j'ai un rapport un peu d'amour-haine à l'animation japonaise et notamment à Miyazaki qui...
De la haine pour Miyazaki.
Amour-haine, on va dire. Non, mais en fait...
Vas-y, défends-toi, là, parce que c'est bien compliqué, quand même.
J'ai une difficulté...
Tu as passé un sale quart d'heure, là, derrière.
J'ai une difficulté avec le rapport à l'imaginaire, à la fois graphique et narratif, dans en particulier le cinéma Ghibli qui fait un peu école sur l'animation japonaise et qui a tendance à me laisser sur le carreau. Et c'est-à-dire que même dans les films de Miyazaki, je me laisse plus embarquer, notamment par un film comme Le Vent se lève où toute la partie, disons, réaliste, rationnelle, ancrée dans le réel est plus importante. Et un film comme... Je fais des bruits super bizarres.
Pourtant, t'es un lecteur d'imaginaire à toi tout seul.
J'ai un petit être à l'intérieur de moi, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'aller les chercher au cinéma.
T'as un petit être à l'intérieur de toi, c'est dégueulasse.
Comme quoi, je ne suis pas nulle part.
Ça se barre très bien. Tu l'as mis où, l'œuf, en fait, là ?
Tout ça pour dire que...
Malgré les apparences, il n'est pas 4h du matin quand nous enregistrons cette émission.
Mais dans ma tête, un peu.
Peut-être.
Et
donc.
Et en fait, non, et pour le coup,
Tu préfères les parties réalistes.
Ouais, et le cinéma d'Osoda...
C'est ça que tu voulais dire, en fait.
Je préfère les parties réalistes, je préfère... typiquement, par exemple, le vent se lève au voyage de Chihiro, qui est un moment, en fait, même si je voyage avec le film pendant un temps, et à un moment, je décroche. Et en fait, avec Osoda, y a un truc qui était aussi très, très, très présent dans les Enfants loups, c'est qu'il y a une manière de faire intervenir le fantastique que je trouve génial et qui, en plus, repose sur une précision et aussi une douceur, une sensibilité dans la capacité à décrire le réel et pour le coup là dans ma petite sœur, dans Mirai, la description encore une fois à la fois graphique et narrative du réel est époustouflante, quoi. C'est un truc, on a l'impression vraiment d'y être et c'est décrit avec une précision que je trouve même presque plus puissante que le cinéma live. Il y a un truc où voilà, on croit vraiment très 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 fort au réel qui nous est présenté et qui fait que, à mon sens, en tout cas sur moi, les scènes fantastiques qui ont lieu dans le petit jardin de cette maison d'architecte, qui en plus, enfin, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. On en avait d'ailleurs un peu parlé à Cannes, qui est extrêmement bien exploité dans les différentes séquences du film. Voilà, il y a un truc qui fait que je pense que même des gens qui se sentent un peu plus réfractaires ou qui ont, je sais pas si j'ai un imaginaire borné ou quel est mon problème là-dessus. En tout cas, je pense que c'est vraiment une super porte d'entrée en fait dans, dans, dans cet imaginaire et c'est totalement bouleversant à la fois donc quand on est très ancré dans le réel et dans les séquences hyper inventives, fantastiques et on va dire oniriques autour du personnage et de l'enfant et le petit chien, etc. Voilà, donc je suis aussi autant que les autres subjugué par ce film.
Graphique.
Bah déjà, il faut noter que c'est un film qui choisit de nous essentiellement, pas tout le temps, mais essentiellement de nous garder sous le point de vue d'un enfant de 4 ans, de son expérience du monde, sa façon d'appréhender les choses. Et vous pouvez un petit peu chercher dans votre filmothèque, ça va, c'est pas si évident que ça. Donc on a peu de films qui arrivent à... on est à un âge où la personnalité de l'être n'est pas encore... vraiment conçu et déterminé, quoi, où les choses sont en suspens. Et le film arrive à mettre en scène cette idée de forme, littéralement de forme en suspens. Et justement, dans ces décrochages récurrents, les façons qu'il a de rentrer et de sortir du réel sont d'autant plus naturelles que c'est un peu aussi comme ça qu'un gamin de 4 ans fonctionne. Moi, ce qui m'a impressionné dans le film, c'est j'ai toujours été impressionné par les films qui arrivent à imposer leur propre symbolique interne. Et donc, il a construit pratiquement tout se passe dans cette maison d'architecte, qui est un véritable univers aux yeux de ce gamin. Tout son univers est condensé là-dedans. C'est à la fois son microcosme à lui et le macrocosme auquel il accède par son imaginaire, comme Julien le disait tout à l'heure. Hein, c'est un film qui, au Soda, me fait régulièrement ça, de lier l'infiniment petit de l'humain et l'infiniment grand du cosmos et de ce qui nous lie les uns aux autres.
C'est le plan d'ouverture. Hein.
Oui, tout à fait.
Avec la caméra qui part du ciel et qui descend sur cette petite maison.
Tout à fait. Et on aura ce plan qui va revenir de façon récurrente, un peu comme des rythmes des saisons, ou même plutôt un peu. C'est plus un rythme de comptine, en fait. C'est-à-dire, on arrive dans le jardin d'une certaine façon la première fois, la deuxième fois à peu près de la même façon, puis dans la troisième, il y a une variation, et ainsi de suite. Donc,
dès qu'il accède au monde fantastique, tu as toujours un travelling circulaire tout à fait, autour de lui.
Voilà. Qui est le seul endroit de la maison où on a un arbre, une plante, quelque chose d'ancré dans la terre et de vivant, en fait, qui est l'arbre généalo-magique, je crois qu'il l'appelle
qui
représente donc sa famille. On n'a pas, pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas vu le film, on peut quand même dire que le principe du film, c'est que pour se confronter à ce nouvel arrivant, cet enfant, en fait, va être amené à rencontrer les incarnations passées et présentes des membres de sa famille, donc sa mère, son père, sa sœur. Et son grand-père.
Son chien également, humanisé.
Tout à fait. Ce qui, nous, spectateurs, nous permet ensuite de remettre en contexte ce que ses parents, en fait, sont en train de lui transmettre, en fait. Et ça fait partie des choses que Osoda a vécues, justement, en tant que jeune père, et qu'on a tous vécu en tant que parents, hein, de réaliser que sortaient de nos bouches les mêmes phrases qu'on avait entendues gamin et qu'on ne supportait pas d'entendre, quoi, et de se dire mais à quoi rime, en fait, voilà, à quoi ça rime cette répétition et ce changement de point de vue qui nous oblige à nous comporter comme en effet miroir de nos propres parents, parce qu'il y a justement un enjeu entre guillemets cosmique là-dedans, qui est celui de l'interpénétration, en fait, des générations. Et c'est là où le film, dans cette dernière partie, comme le disait Julien, qui est effectivement relativement angoissante, se confronte en fait directement à la notion de la mort, parce que il n'y a pas d'autre issue que de parler de la mort si tu veux parler de la vie. C'est un film qui parle de la vie et de sa transmission, donc tu le confrontes on va dire entre guillemets à l'antithèse, quoi. Et ça reste, y compris dans ces séquences là le point de vue d'un enfant de 4 ans. C'est le point de vue d'un enfant de 4 ans sur la mort, donc c'est quand même
ce qui est intéressant sur ces séquences de la mort, c'est que tu y rentres avec la peur de l'abandon, donc de la solitude, donc d'être séparé en fait de tout ça, en fait. fait, de tout ce que tu as appris à avoir auparavant. Ouais. Pardon, Raph.
Et donc tout ça fait que le film est je trouve bien rythmé d'une part. Je me demande aussi à partir de quel âge il peut être vu, parce que j'ai l'intention d'y emmener mon propre fils, qui à mon avis à l'âge qu'il faut. Mais si ce n'était justement ces séquences finales, on pourrait même descendre très bas. Je pense qu'un enfant de 5 ans peut comprendre ce qu'il est en train de regarder. Et là, on parle d'un film qui n'est pas un film qui rabaisse le niveau, hein, pour parler aux plus petits. Pardon. Parce qu'il parle de choses qui sont effectivement universelles.
Arnaud ?
Ouais, bah, je plussoie tout ce que viennent de dire mes camarades. Non, alors évidemment, c'est sans doute de son propre aveu, son film le plus personnel à Mamoru Hosoda. En même temps, c'est un film qui reconduit une figure qui l'aime particulièrement bien. C'est donc la figure du va-et-vient entre la réalité et un univers parallèle. Mais alors, c'est vrai que là-dessus, moi, je trouve le film particulièrement mal vendu en France. J'ai vu il y a quelques jours l'affiche officielle française. Enfin, c'est la famille Bélier, l'affiche, quoi. C'est vendu et traité même dans les médias uniquement à travers cette porte-là. C'est-à-dire, on parle d'Ozu, on parle de. Alors c'est vrai, c'est il a ça, Mamoru Hosoda, c'est un poète du quotidien, quoi. Et les scènes de la première, notamment dans la première partie, toutes les petites scènes de la famille où il y a une finesse d'observation sur les petites choses du quotidien qu'on partage dans une famille qui est vraiment frappante, hein, comme ce que disait Julien, quoi. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Justement, il y a aussi, et c'est ça qui est étonnant, parce que il y a cet univers-là, et après il y a un univers beaucoup plus débridé dès qu'on bascule dans le voyage initiatique, on va dire, du petit garçon. Et alors, moi, je pense qu'effectivement c'est très casse-gueule, ce genre de choses, quoi. Mais je pense que justement l'originalité du film et le fait qu'il arrive à tenir ça, c'est de tout voir à travers, comme disait Rafik, le regard d'un petit enfant de 4 ans. Okay. Et ça, il le fait, mais c'est magnifique à ce niveau-là. C'est-à-dire, Hosoda, c'est un cinéaste impressionniste, quoi, vraiment, quoi. C'est-à-dire, il ne se base pas sur la description. Il ne traite pas la description, il traite vraiment les états d'âme de ces personnages. Donc, par exemple, c'est enfin la première partie, même si ce qui est devant l'objectif entre guillemets relève de sujets qu'on a pu voir chez Ozu, c'est pas du Ozu non plus, quoi. C'est-à-dire, on est avec un gamin de 4 ans. Par exemple, il y a un moment où sa mère lui fond dessus pour l'engueuler. C'est avec des raccords dans le mouvement. Il y a aussi, il joue sur les étages de cette maison d'architecte qui est très bizarre, avec des étages en escalier comme ça. Et à un moment, il y a sa grand-mère qui s'amuse avec lui, qui passe d'étage d'un étage à l'autre avec lui comme ça en transparence. Enfin, il y a beaucoup d'effets de cinéma comme ça qui arrivent à retranscrire le ressenti de ce gamin. Quand on bascule dans le fantastique, après ça devient, je spoil pas, hein, mais vers la fin il y a une scène dans la gare là, qui fait partie de ces scènes terrifiantes, mais parce que c'est une scène, moi j'en ai un petit peu parlé avec Hosoda justement quand je l'avais rencontré à Cannes, et il m'avait expliqué qu'il avait conçu une gare qui était le double d'une gare normale, quoi. Oui. Et où la foule n'arrêtait pas de s'agiter, ça avait des dimensions gigantesques, tout ça pour montrer justement le point de vue de ce petit bonhomme perdu au milieu de cette architecture gigantesque avec plein de gens qui vont, qui viennent partout, de droite à gauche.
Avec un passage en animation en volume, d'ailleurs, dans cette séquence.
Tout à fait. Il le fait un peu moins dans ce film-là, mais il a toujours eu tendance aussi à mélanger Hosoda. Je pense que là où il l'a fait le mieux, c'était dans ce Summer Wars, quoi. De mélanger les styles, pour arriver à créer quelque chose de
Il y a de l'image de synthèse aussi dans la séquence finale, d'ailleurs.
Il y a de l'image de synthèse aussi, ouais. Mais c'est vrai que, j'en parlais tout à l'heure d'un Marocco, ils ont un ton et un univers très différent, mais là, en cela, il me fait penser à un autre cinéaste d'animé japonaise, quoi.
Ce sens du teasing. Et Vincent Couferrira, on passe au reco, du coup. Tu as gagné, Arnaud Bordas. C'est ça que tu voulais qu'on y arrive tout de suite. Pour terminer, donc, un petit tour de recommandation aux destinations de nos amis auditeurs. On peut évidemment, comme tu t'apprêtes à le faire, rester dans le domaine du film d'animation.
Tout à fait. Alors, justement, j'ai un trou.
Waouh.
J'ai un trou sur le...
On est passé du teasing à la déception, mais en très très rapidement.
Non, mais j'ai ma reco, mais en fait j'ai un trou sur le nom du réalisateur. Mais mes amis vont m'aider, je pense. Je voulais recommander, qui est sorti en France, hein, qui est disponible en vidéo, Mind Game, et donc qui est réalisé par...
Masaaki Yuasa.
Yuasa, voilà. Et donc, alors, Mind Game, c'est... Je vais pas tenter de le pitcher parce que c'est un descriptif, ça part d'une histoire de gangster, un petit peu, avec mélangé avec une histoire d'amour. Mais après, c'est un film qui va littéralement dans toutes les directions, sans jamais nous perdre, parce qu'il nous tient fermement par la main, quoi, et qui explore le mystère de la vie. Voilà, je crois qu'on pourrait dire ça, quoi. Et c'est une tornade créative. Enfin, moi, je pense que c'est un des deux ou trois dessins animés les plus créatifs que j'ai vus dans les 10-20 dernières années, quoi.
C'est le film psychédélique du 21e siècle, par essence.
Ouais, quoi. C'est
sorti en Blu-ray en début d'année.
Voilà.
Faites des recos à plusieurs maintenant.
Moi, je me rappelle la première fois que j'ai...
Comme il a des trous de mémoire, bien compensé.
La première fois que j'ai vu ça, j'étais complètement sonné. J'avais eu du mal à ressortir de film. Et alors, je le recommande en fait parce que c'est exactement ce que je disais à l'instant. Il y a entre Yuasa et Osoda une manière des fois de jouer, de tirer la représentation vers l'abstraction. Alors, dans Mirai, il y a deux, trois scènes comme ça, enfin, des plans comme ça, où notamment quand la grande sœur, quand il va dans le monde parallèle, comme ça, le petit garçon qui rencontre sa sœur adolescente.
Ouais.
Voilà, et elle l'emmène dans une sorte de tourbillon qui tire un petit peu comme ça sur l'abstraction. Et ça, c'est le genre de truc que Yuasa fait. Alors lui, c'est marrant parce que lui aussi récemment, avec son dernier film, il est allé vers un peu plus vers le grand public, un peu moins vers le psychédélique. C'était son dernier film, c'était Loup et la sirène. C'est ça. Ouais. Et donc c'était beaucoup plus grand public, beaucoup plus. Mais il s'est quand même autorisé ce genre de trip. Et c'est vrai qu'Osoda, à ce penchant-là, il l'avait brillamment fait dans Summer Wars. Et puis dans la pub qu'il avait fait pour Vuitton, là où il avait utilisé l'esthétique. Oh là là, j'ai des trous ce soir. Rafik, tu vas m'aider.
dit-il, passant le bébé à...
De cet artiste Rafik. Japonais. Là,
le Super Flat.
Voilà, le Super Flat. Et c'est ça qu'il avait repris un petit peu dans Summer Wars. Et il y a ce goût-là. Et alors, c'est marrant parce que je lui en ai parlé. Et c'est quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé. Il a 50 piges, mais on dirait un adolescent, quoi, au soda. Et quand je lui ai parlé de ça, il a rigolé. Et puis après, il a dit pas du tout.
David.
Voilà, Mind Game donc.
Mind Game, David.
Oui, moi j'ai une reco qui est plus dans la veine Ozu qu'évoquait Arnaud tout à l'heure. Il y a le film qui a obtenu la Palme d'Or cette année, qui est sorti à la mi-décembre, Une affaire de famille de Hirokazu Koreeda, raconte l'histoire d'une sorte de famille faite de bric et de broc, de pickpocket. Enfin voilà, une famille reconstituée, et c'est un film plutôt intéressant. Mais moi j'ai envie de recommander un autre film qu'il a fait il y a une quinzaine d'années, qui s'appelle Nobody Knows. Qui est un peu dans l'esprit qu'évoquait Rafik, d'essayer de dépeindre le monde à hauteur d'enfant, qui est un truc assez rare au cinéma. Alors pour le coup, c'est des enfants un petit peu plus âgés, je dirais qu'on une douzaine d'années, oui. Dans Nobody Knows, qui sont en fait livrés à eux-mêmes dans les rues de Tokyo. Et c'est un film très impressionnant là-dessus, sur justement la capacité à faire complètement porter le récit par des enfants, et que voilà, que je recommande chaudement, et même à voir en fait en complément du film qui sort en salle et qui a eu la Palme d'Or cette année.
Julien.
Moi, je trouve ça un peu raciste, là, toutes ces recos japonaises, là, voilà.
Non,
voilà, on parle des Japonais, on reste avec. Non, en fait, sur le truc des peurs enfantines, en fait, au cinéma, qui est finalement un truc pas si exploité, ça, je trouve. Il y a un film, moi, qui m'a beaucoup marqué, qui n'est pas un film parfait, mais qui est un film que je trouve totalement fascinant.
C'est
qui
le Massacre à la tronçonneuse.
Non, Ose, un monde extraordinaire de Walter Murch. parce que.
Je confirme.
C'est, parce qu'en fait, c'est marrant, dans les quand Disney était un peu dans le néant, là où il savait pas trop se situer dans les années 80, on cite souvent Tron, Le Trou Noir, Taram et le Chaudron Magique et tout. C'est un film, je trouve, qu'on oublie un peu souvent. Et alors que c'est un film qui propose des vignettes et des scènes qui sont mais proprement terrifiantes. C'est-à-dire que moi je le vois comme ça, en tout cas c'est un des rares films d'horreur d'enfants, en fait. C'est-à-dire que c'est
qui a provoqué à sa sortie, qui a provoqué des scènes de panique et qui a été retiré de l'affiche dans pas mal de salles parce que les enfants cherchaient à sortir de la salle,
en fait. Mais voilà, c'est un film à redécouvrir. C'est un film de Walter Murch, en fait, qu'on connaît peut-être plus en
produit
tant que
Gary Kurtz,
produit par Gary Kurtz, oui d'ailleurs, ouais. Exactement, et qu'on connaît peut-être plus en tant que monteur et sound designer, notamment chez Coppola.
C'était lui la voix de Wally, je crois.
Oui, non.
C'était pas lui qui faisait la voix de Wally ?
Non, c'est pas lui. C'est Ben Burtt, je crois, non ?
Ah
non,
ah oui, peut-être, ouais, t'as raison.
Voilà.
Il a bossé là-dessus.
Mais donc voilà, aux un monde extraordinaire. À voir, à montrer à vos enfants
s'ils n'ont pas été sages avant Noël, c'est sympa, graphique.
Alors moi, il y a plein de films sur l'enfance. Hein, j'aurais pu partir sur le Solvidados de Buñuel ou d'autres énormes classiques sur le point de vue enfant. Justement, oui. J'ai choisi un film qui, à mon sens, a été complètement oublié. J'ai toujours trouvé ça assez curieux parce que c'était un énorme succès à sa sortie et un régulier des diffusions télé quand j'étais gamin. Un film de Luigi Comencini qui s'appelle L'Incompris, qui date de 1967, dans lequel un père vient de perdre son épouse et demande en gros à son fils aîné, qui doit avoir 9-10 ans, de s'occuper de son petit frère par rapport à ce décès. Et parce que le père ne peut pas tout simplement s'occuper de ses mômes. Et cet enfant se retrouve avec une prise en charge impossible, en fait. Et c'est un film qui faisait pleurer dans les chaumières quand j'étais môme, mais à un point des torrents de larmes. Donc vous êtes prévenus, si jamais vous avez la curiosité d'aller cliquer ou jeter un œil sur le DVD. Voilà, donc, mais sur la question de la douleur enfantine et du rapport entre grands et petits frères, il mettait le doigt sur des choses
qui font
assez
mal.
Justes et qui font mal.
Oui, voilà. Vous avez bonne recos pour les fêtes de fin d'année, c'est bien, les garçons. On est bien en termes de bonne ambiance. De bonne ambiance en famille. Notre temps est écoulé. Merci à tous les quatre. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour retrouver toutes nos émissions, le programme, les prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Et puis en attendant, on vous dit à très vite.